Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu sois bourgeois ou prolo, vieux déjà ou un peu jeune, pas de problème, viens au bistrot, on y est bien et jamais tôt. On n'est pas là pour gratter, on est venu pour s'enivrer de connaissances comme des pots, mais pas de lézards dans nos bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse.
Je cite une expérience qui a été faite avec Ossolietti, qui est extraordinaire. Donc on avait pris toutes les précautions possibles et inimaginables. Il y avait une cible qui contenait, c'était un texte avec un dessin et une phrase de quelques lignes, qui avait été mis dans un tube en plomb scellé. La personne, alors il y avait, c'était en triple aveugle, c'est-à-dire que la personne qui avait fait, il y avait plusieurs personnes qui s'étaient échangé la chose et les gens qui avaient amené le tube à l'expérience ne connaissaient pas les gens qui l'avaient préparé. Et Ossolietti a pris le tube et c'était le portrait d'un général polonais avec des moustaches, etc. Il a commencé à faire le dessin du bonhomme. Et puis il a dit, c'est curieux, je vois ça comme un chevalier sans peur et sans reproche. Et le texte était quelque chose comme un chevalier sans peur et sans reproche. Le hasard ne peut pas expliquer ça, c'est...
De l'économie, du virtuel, de l'astronomie. C'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Bertrand Méheux.
Mon esprit danse, celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Bon, alors j'espère que je ne vais pas vous vendre de la fausse bière. J'ai un sujet qui s'y prête à première vue. On pourrait même penser, pour les opinions communes, que c'est le sujet où il y a le plus de fausses bières. Alors, je vais essayer de prouver que ce n'est pas complètement ça. Comme me disait Jean Bosco, il y a des mensonges, j'ai réfléchi aux mensonges. Alors, quel mensonge ai-je réfléchi? Où est le mensonge? Est-ce que c'est le mensonge que nous vend la parapsychologie en nous faisant croire à des pouvoirs imaginaires de l'esprit? Ou bien au contraire, est-ce le mensonge de l'institution qui essaie de nous faire croire que ces choses-là n'existent pas? Alors évidemment, comme c'est toujours le plus fort qui l'emporte, a priori c'est l'institution qui a raison. Donc on tient que ça n'existe pas. Si je me souviens bien du titre de ma conférence, la parapsychologie, fausse science ou questionnement révolutionnaire. Qui ment? Est-ce que c'est ceux qui disent que ces phénomènes existent et qu'ils bouleversent notre idée de la réalité? Ou est-ce que c'est ceux qui nous disent que ça n'existe pas? Alors élargissons le débat. Vous avez sans doute remarqué qu'aujourd'hui c'est un peu comme ça partout. C'est notre société tout entière qui est comme ça. Alors, là, je vais quand même avoir un abord assez personnel. Moi, je pense que je vais vous montrer qu'il y a un moyen, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas seulement une appréciation subjective, mais sur lequel on peut avoir un avis fondé historiquement, objectivement. Et je vais plaider à charge et à décharge, mais surtout, comme vous allez voir, à décharge. D'où est-ce que je parle pour dire ça ? Je ne suis pas un sociologue mondain qui aurait regardé ces choses de loin en s'en lavant les mains. Ce que sont les universitaires normaux. Les universitaires normaux qui ont étudié ces questions se débrouillent pour s'en laver les mains en disant en ne répondant pas à la seule question qui intéresse les gens, c'est oui ou non, est-ce que c'est vrai ces histoires ? Ils étudient les contextes culturels, tout ça, mais ils se défilent quand on leur pose cette question. Moi, je ne suis pas un universitaire. Il est écrit quelque part dans ma présentation que je suis rattaché au CNRS. En fait, j'étais prof de philo, je suis encore pour pas longtemps. Et je suis rattaché, bon, parce que j'ai un copain au CNRS, mais ça ne va pas plus loin que ça. Je ne suis pas dans l'institution. Donc, je suis libre. Je parle à mon nom personnel et je n'ai pas sur moi le poids d'une institution qui m'empêche de parler. C'est très important, c'est même capital. D'autre part, je suis engagé dans l'étude de ces phénomènes depuis plus d'une trentaine d'années et je suis partie du comité directeur de l'Institut Métapsychique, c'est-à-dire la seule société savante historiquement fondée qui étudie ces questions en France. Donc je suis un acteur de la chose et pas un observateur distant. Voilà. Vous sachiez, ça peut être retenu pour ou contre moi, mais c'est ainsi. Oui. Donc je résume, je vais vous montrer en quoi, je vais vous montrer les arguments que l'on avance contre la parapsychologie pour dire qu'elle est une fausse science, et ceux qu'on avance en sa faveur pour montrer qu'elle n'en est pas une. Bien, alors ceci posé, il va falloir commencer par quelques précisions historiques et définitions. Alors, le problème pour parler de ces questions, c'est que la connaissance des gens là-dessus est très floue, très approximative. On ne peut pas leur reprocher, puisque ce sujet officiellement n'existe pas et n'est pas enseigné. Si vous regardez par exemple au CNRS, vous avez un découpage des objets scientifiques. Alors il y en a toute une liste, ils sont numérotés, il y en a des centaines. Vous pouvez étudier la reproduction des cloportes, la momification des... tout ce que vous voulez, les quasars, tout ce que vous pouvez imaginer répertorié avec des numéros. Non. Mais les phénomènes parapsychologiques n'existent pas officiellement. Ils n'ont pas d'existence institutionnelle. Donc si vous ne pouvez pas être au CNRS et dire j'étudie la parapsychologie, c'est impossible puisque officiellement elle n'existe pas. Et donc, pour ces raisons, étant donné qu'elle n'est pas enseignée ni répertoriée, le nombre de gens qui connaissent cette question en France se mesure sur, quelques dizaines, ou quelques centaines. Mais à la connaître d'une façon pointue, peut-être quelques dizaines. Pourquoi ? Ben parce que, je répète, ça ne s'enseigne pas. Et pour l'étudier, il faut prendre sur soi de le faire. C'est un champ d'investigation très difficile, très long, très compliqué, ça te suppose... C'est un champ extrêmement périlleux, casse-gueule, etc., etc. Et donc, les gens qui ont réussi à passer à travers tout ça, ils ne sont pas très nombreux. Hein. Donc, forcément, à partir de quoi, dans l'opinion publique, il y a une connaissance à peu près nulle ou très diffuse de ces questions. Donc, la première chose pour pouvoir répondre à la question que j'ai posée, c'est de définir de quoi je parle. Je m'excuserai, là, je vais faire le prof, mais je suis obligé d'y passer. Donc, je vais définir ce que c'est que la parapsychologie et la métapsychique et leur histoire. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, c'est la raison triomphante, et on rejette la superstition, les phénomènes du miracle, tout ça, dans le passé. Et c'est à ce moment-là que, quelques années avant la Révolution française, un extraordinaire phénomène se développe, phénomène social, culturel, se développe en France, c'est ce qu'on appelle le magnétisme animal, ou mesmérisme. C'est un médecin autrichien qui s'appelle Franz Anton Mesmer qui prétend avoir découvert une théorie et une pratique médicale qui révolutionne la médecine. Alors le fondement de cette théorie, c'est qu'il y a une sorte de fluide qui emplit l'univers et qui relie tous les êtres. Et ce fluide est à la fois responsable du maintien en vie et en bonne santé des êtres vivants et en même temps il est curatif. Et on peut, par la volonté, le projeter sur, en se concentrant sa volonté, on peut le projeter en faisant des passes sur un malade. En projetant ainsi ce fluide sur un malade, on provoque sur lui une sorte d'électrochoc, de modification physiologique brutale qui lui donne des convulsions. Puis cette personne tombe dans un état un peu de léthargie et on constate un état, une amélioration frappante de son état. Donc Mesmer arrive à Paris dans les années qui précèdent la Révolution et il devient, alors il faut expliquer qu'à cette époque-là, la France est une poudrière, mais en même temps c'est culturellement très intense, très, très riche, tout est possible. Et donc il devient l'homme le plus célèbre de Paris. Toute l'aristocratie se presse au traitement de Mesmer. Et il a la chance, dès le début de son exercice, de guérir le médecin du roi, qui était venu très malade. Alors, ayant guéri le médecin du roi, évidemment, il a décroché le gros lot. Le médecin du roi ramène ses collègues, et ainsi de suite, toute l'aristocratie défile, et puis c'est devenu le scandale à la mode. À partir de là, il va se développer une approche scientifique de ces phénomènes. À l'époque, on appelle ça la lucidité magnétique. Donc la lucidité magnétique, c'est la capacité qu'aurait l'esprit humain de prendre connaissance de réalités cachées aux sens, situées dans l'espace, dans le futur ou dans le passé, en dehors des canaux sensoriels connus. Des phénomènes complètement stupéfiants qui bouleversent complètement ce qu'on peut comprendre à l'époque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas plus avancé sur ce plan. Ça déclenche une immense polémique. Et il va y avoir, après la Révolution, une série de commissions officielles qui vont étudier ce problème. Il y en aura 3 ou 4, avec des avis divergents. Certaines vont, d'une façon très claire, dire « ces phénomènes existent, on les a observés », et d'autres vont, au contraire, ils ne vont pas dire que ça n'existe pas, mais ils vont dire qu'ils ne les ont pas observés. Il y a si vous voulez, ça déclenche dans la pensée européenne un conflit fondamental sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain, où est-ce que ça s'arrête la personnalité humaine. Est-ce que je suis limité à mon ici maintenant, ou est-ce que ma pensée finalement est quelque chose qui peut se balader dans l'univers, est-ce que ma personnalité est un noyau fermé, ou est-ce que c'est poreux et ouvert à d'autres influences? C'est un phénomène stupéfiant. Si on répond à cette question d'une façon ou d'une autre, on a une vision différente de l'homme. Voilà. Alors à partir de là, ça va se développer. Il va y avoir un immense conflit qui va traverser tout le 19e siècle en France. Et puis à la fin du 19e siècle, naissent ce qu'on appelle les sciences psychiques. Alors ne vous y trompez pas, sciences psychiques, dans le langage technique, ça désigne l'étude, c'est le terme générique pour désigner l'ensemble des branches de la parapsychologie, à l'origine. Les Anglais parlent psychical science, la science psychique. Donc, vous voyez le mouvement, ça part de France, ça arrive en Angleterre. Alors, il faut vous représenter que l'Angleterre en 1860, c'est les États-Unis aujourd'hui. C'est la puissance dominante sur la planète, au plan scientifique notamment, et technique. Et donc, le fait que ça naisse en Angleterre n'est pas anodin. Et en Angleterre, les sciences psychiques s'organise, donc c'est un philosophe qui s'appelle Sidgwick qui organise ça à Cambridge. À Cambridge, il y a ce qu'on appelle le Trinity College. C'est l'équivalent en France du Collège de France. C'est ce qu'il y a de plus sophistiqué dans l'intelligentsia. Donc j'insiste beaucoup sur ces faits parce qu'on croit toujours que la parapsychologie, c'est des histoires de Madame Irma et qu'un turban. Non, c'est né dans la haute intelligentsia et ça a concerné d'abord l'élite. Pour ça que j'insiste beaucoup sur ce point. Donc ça naît à Cambridge, et là il y a un groupe de psychologues comme Myers, etc., qui vont développer toute une théorie de l'esprit humain compatible avec ces faits. Les faits de voyance, les faits de précognition, etc., etc. Ensuite ça revient en France, après un baptême anglais, puisque déjà à l'époque il faut passer par l'Angleterre pour qu'une chose soit valable. Donc ça revient en France, et les Français, qui sont quand même à l'origine de la chose malgré tout, récupèrent ça sous un autre nom, ils appellent ça la métapsychique. Et donc la métapsychique, l'institut dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont je fais partie, la Société Savante, a été fondée à cette époque-là, c'est l'Institut métapsychique. Ça a été fondé par le prix Nobel Richer, prix Nobel de médecine, en 1919. Alors pourquoi en 1919? Je vous expliquais le contexte. C'est la guerre qui vient d'arriver, et puis il y a un immense deuil dans toute l'Europe. On cherche les disparus, on cherche à entrer en contact avec les disparus, etc. Il y a un essor extraordinaire du spiritisme, mais aussi des médiums qui cherchent à entrer en contact avec les décédés. C'est devenu un phénomène social énorme. C'est dans ce contexte favorable que Richer fonde l'Institut métapsychique. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il, c'est contradictoire avec ce que j'affirme, qu'il y a une répression de ces choses. Alors, à l'époque, non. Beaucoup moins. La science et l'intelligentsia jusqu'à 1935 en France est beaucoup plus ouverte qu'aujourd'hui à toutes ces questions. Les grands philosophes, les savants n'hésitent pas à s'afficher sur ces problèmes. Et donc Richer, le prix Nobel Richer, qui vient d'avoir son prix Nobel de médecine, il a une aura suffisante pour créer l'Institut métapsychique. Et à l'époque, il y a de l'argent. Un richissime marchand de vin bordelais dote l'Institut métapsychique d'une fortune qui permet d'acheter un hôtel particulier et de payer un certain nombre de chercheurs qui travaillent à temps plein. Il nous reste encore des miettes de ça aujourd'hui. Voyez, peu à peu, le capital forcément a décliné. Voilà, donc la métapsychique arrive et elle se donne comme tâche officielle d'étudier les phénomènes dits paranormaux, je vais vous en faire une liste rapide, en dehors de tout présupposé religieux ou philosophique. Et il va y avoir, jusqu'à la guerre, deux décennies extraordinaires. Ils avaient les moyens, l'époque était porteuse, il y avait plein de médiums extraordinaires. Il y avait donc toutes les conditions pour faire des études extraordinaires, pour faire une percée. Maintenant, il faut encore que j'affine, mais je suis désolé, mais les préalables sont longs en ce domaine, pour que clarifier tout, différencier la parapsychologie de la métapsychique. La métapsychique, c'est l'approche qualitative des sujets d'exception, des grands médiums. Voyez, grands médiums qui sont capables de lire dans des lettres scellées, de voir ce qui se passe à distance, d'avoir des précognitions, etc. Des sujets doués dont on peut attendre avec une bonne chance de succès qu'ils réussissent une expérience. On se réunit, on met en place un protocole, on attend et ça marche 3 fois sur 4 ou 2 fois sur 3. Ça n'est pas complètement reproductible, mais c'est en grande partie reproductible. Seulement, ces sujets sont rares, qu'on étudie dans leur environnement habituel, et non pas dans un laboratoire déshumanisé. Ça, c'est l'approche de la métapsychique. Elle est plus liée, si vous voulez, à l'approche de l'éthologie, des gens qui étudient les animaux dans leur terrain, dans leur contexte, c'est-à-dire en respectant leur mode de vie. Voyez, si vous étudiez un gorille au zoo ou dans sa forêt, c'est pas du tout pareil. Eh bien, pour prendre l'image, les métapsychistes étudient le médium dans son biotope, dans sa forêt, et pas au zoo. Le zoo, c'est le laboratoire. Et aux États-Unis, il naît une autre branche. C'est la sœur, mais un peu la sœur ennemie, la métapsychique. C'est la parapsychologie, qui est anglo-saxonne. Elle part sur des présupposés beaucoup plus hard science, voyez, c'est-à-dire des statistiques, des phénomènes. Ils refusent de prendre comme sujet des sujets doués, ils prennent n'importe qui. Et puis, ils étudient les résultats statistiques. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez étudier la précognition de deux manières. Soit en prenant un sujet extraordinaire, un médium génial comme Nosovieki, et puis en lui demandant de prévoir certains événements qui vont se dérouler dans un proche futur. Soit vous prenez n'importe qui, vous le mettez devant une machine avec des dés, et vous lui demandez de prévoir le dé qui va sortir. Et vous faites ça des centaines de fois, puis vous prenez cette expérience avec des milliers de sujets, vous répétez ça, etc., et vous notez. Et vous constatez au bout d'un moment, statistiquement, que le taux de réussite est supérieur, ou parfois anormalement inférieur au hasard. Ce qu'on appelle le psi négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui échoue plus que le hasard. Parce qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a ceux qui réussissent plus que le hasard ne le permet, mais il y a ceux qui échouent plus que le hasard ne le permet. Bon. Et donc, les parapsychologues américains prétendent ainsi régler les difficultés inhérentes à la rareté des médiums, etc., etc., en prenant exactement n'importe qui. Et leur présupposé est le suivant, la réalité parapsychologique, les phénomènes paranormaux, ce qu'on appelle le psy maintenant, hein, c'est-à-dire c'est un terme générique, c'est un philosophe américain qui a appelé ça comme ça pour se défaire des connotations habituelles parapsychologique comme l'âme. Ça, il a pris un mot, une lettre de l'alphabet grec, psy, et il a dit voilà, on appelle psy l'ensemble de tous ces phénomènes. Bien. Les parapsychologues américains, comme Rhein, prennent des sujets lambda et les mettent devant les machines et hop, pst, et ils démontrent. Leur présupposé est que ces phénomènes, la réalité psy, est latente chez tout être humain. Mais à un degré tellement infinitésimal que c'est invisible. Et que seules les statistiques permettent de le révéler. Alors ça n'est pas spectaculaire, c'est même très ennuyeux, toutes ces expériences avec les statistiques. Par contre, ça établit d'une manière certaine cette espèce de bruit de fond parapsychologique. Vous voyez, le bruit de fond psy du réel. C'est-à-dire, par exemple, la précognition. Nous sommes tous, sans le savoir, en train de faire des précognitions. Nous ne les voyons pas, nous ne le savons pas, nous n'avons pas le moyen de savoir que c'en est. Elles sont noyées dans tout un tas de fantasmes et d'événements mentaux d'un autre ordre. Mais lorsque on essaie de faire des tests avec les statistiques, on voit cela apparaître. Alors après, c'est des débats statistiques. Mais il y a eu des discussions, je peux vous dire tout de suite qu'elles sont tranchées. Il a été reconnu que les statistiques des parapsychologues américains sont impeccables. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut les attaquer. Il faut dire aussi qu'ils ont fait des centaines de milliers d'expériences. Pendant 20 ans, ils ont un énorme dossier. Voilà ce que c'est que la parapsychologie et la métapsychique. Ce sont deux branches d'une même démarche, mais qui n'ont pas les mêmes méthodes et les mêmes objets. À partir de là, ils vont avoir un immense succès en Europe jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est fini. Du moins pour la France. C'est-à-dire que ces phénomènes vont être impitoyablement réprimés. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette répression? Eh bien, il y a eu tout un tas de facteurs. D'abord, la déception, l'extraordinaire difficulté d'étudier ces phénomènes qui sont fuyants, insaisissables, etc., etc., avec lesquels on a du mal à trouver la preuve décisive. D'autre part, il n'y a qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une prédominance complète des marxistes dans le domaine intellectuel. Et ces phénomènes, pour les marxistes, sont considérés comme une sorte d'opium du peuple. Et donc, il faut les rejeter absolument. L'idée que nous faisons aujourd'hui encore de ces phénomènes est complètement tributaire des jugements qui ont été portés sur eux à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les intellectuels marxistes ou marxoïdes. Enfin, après, il va y avoir les diverses idéologies, il y a la psychanalyse, le structuraliste, tout ça, ça va s'empiler et faire oublier ces phénomènes. Si bien qu'en France, tout le monde croit que la parapsychologie est une sorte d'approche populaire, non structuré, de phénomènes fumeux, alors qu'à l'origine, c'est une démarche qui est née dans l'élite, par les prix Nobel, les philosophes, etc., etc., et qui mis en place des protocoles extraordinairement rigoureux. Simplement, ça ne se sait pas, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Alors, si on prend un peu de champ maintenant, si on regarde quelles sont les raisons du refoulement de ces questions, c'est pas seulement la victoire momentanée du marxisme dans la vie intellectuelle française, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est le refoulement successif du christianisme, qui a rejeté la magie, comme vous le savez, et de la raison. Les gens qui croient que les rationalistes, qui croient que la raison est en guerre avec l'Église, sont complètement à côté de la question. En fait, c'est le christianisme et le rationalisme qui ont chacun, à leur façon, rejeté ces phénomènes. Vous savez, l'arbre de la connaissance, le fruit défendu. Bon. Qu'est-ce que ça peut être? C'est étonnant, j'ai jamais lu quelque part quelqu'un qui se pose cette question. Qu'est-ce que ça pouvait bien être que la connaissance à l'époque où ce texte a été écrit? C'est la divination qui est interdite. C'est-à-dire, il est interdit de pénétrer dans les secrets du divin. L'homme n'a pas le droit ni le pouvoir de pénétrer dans les secrets du divin par les manipulations magiques. Cette voie-là est complètement fermée. Voilà ce que veut dire l'interdit de l'arbre de la connaissance. C'est l'interdit portant sur la divination. Je suis complètement stupéfait que cette évidence ne soit pas répétée. Donc, c'est la divination qui est fermée. La fermeture de la divination, elle n'a pas que ça entraîne un champ en même temps très positif, ça va définir une nouvelle religion, une nouvelle approche du sacré, de l'homme, etc., etc. Mais il fallait passer par là. Voyez. Ensuite, la science moderne va affirmer sous un autre angle l'impossibilité de ces phénomènes, en disant, la connaissance d'une réalité située dans le temps ou dans l'espace sans passer par les canaux sensoriels est une impossibilité radicale. Et surtout, l'impossible de l'impossible, c'est la divination du futur, la précognition, l'horreur absolue. Voilà. Donc, l'effet conjoint du christianisme puis du rationalisme a écrasé ces phénomènes. Et il y a un troisième facteur qui s'est surajouté avec la naissance de la civilisation libérale et du matérialisme moderne, c'est le façonnage d'un individu insulaire, l'individu conçu comme une monade, qui ne communique plus avec ses semblables que par des moyens gestuels, techniques, etc., mais connus par la science. L'individu moderne, tel qu'il est pensé, est un individu insulaire, c'est-à-dire que les êtres... Si je ne dis pas à quelqu'un ce que je pense, par un canal matériel quelconque, geste, signe, ce que vous voudrez, il ne peut pas le savoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de pensée commune, vous voyez, de fuite. Bon, ce type d'homme que nous connaissons aujourd'hui, il ne faut pas vous imaginer que c'est l'homme en général. Si vous regardez dans l'Antiquité, vous verrez que c'est exactement le contraire. Les hommes se pensent comme un collectif, et c'est peu à peu que l'individu va émerger de ça, vous voyez. Et il est en gros depuis 2-3 siècles. Oui. Donc pour simplifier les phénomènes dont je parle, toutes les cultures humaines, tous les temps, etc., ont affirmé leur existence, sauf la nôtre depuis 3 siècles, et encore une partie de la nôtre, puisqu'il y a toujours eu à l'intérieur de l'élite des gens pour dire que ce n'était pas vrai, et des gens pour avoir ce type d'expérience. Donc vous avez en tout cas bien compris que s'il y a une répression qui pèse sur ce sujet, c'est qu'elle vient de très loin, parce que c'est incompatible avec les fondements philosophiques et scientifiques de notre civilisation. Donc, nous trouvons devant quelque chose qui ne peut pas être admis. Nous sommes devant le tabou, c'est le seul tabou qui soit aujourd'hui, le seul sujet, il y a trois sujets aujourd'hui de censure, trois sujets de censure, trois. Il y a... la pédophilie, évidemment, il y a le révisionnisme vis-à-vis du nazisme, et puis il y a la parapsychologie. Quelqu'un qui est... Ça, c'est un truc à vous faire exclure de l'université.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau. Et à l'intérieur d'une flamme.
Bertrand Méheux.
Bien, j'en arrive au sujet proprement dit, donc, ce qu'il fallait tout ce temps-là pour l'amener. À partir de là, on va traiter la question, est-ce que la parapsychologie est une fausse science, d'accord ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fausse science ? Donc, une fausse science, ça serait une démarche qui prendrait les aspects, le langage, qui mimerait la méthode de la science, mais qui n'arriverait pas à dégager son objet et qui ne serait pas une science, qui n'aurait pas d'objet réel, qui mettrait en jeu cette démarche sur un objet imaginaire. Alors, c'est pourquoi les rationalistes, et surtout ce qu'on appelle les zététiciens, la branche la plus dure des détracteurs de la parapsychologie, considèrent la parapsychologie comme une fausse science, parce qu'en mimant la science réelle, si vous voulez, la science étant le fondement de notre société, mimer la science sur des objets imaginaires, c'est créer une confusion fatale dans les esprits. C'est quelque chose de très dangereux. Voilà pourquoi ils dénoncent la parapsychologie comme une fausse science. Bien. Alors, je vais prendre les uns après les autres les arguments qu'ils avancent pour réfuter la parapsychologie et je vais dire ce que disent les parapsychologues ou les métapsychistes de ces arguments. Je vais faire comme notre Premier ministre, je vais poser les questions et les réponses. Premièrement, la parapsychologie n'a pas d'objet délimité. Une science doit délimiter un objet, préciser très clairement ce qu'elle étudie. Voyez. Ce que reprochent les rationalistes et les zététiciens aux parapsychologues, c'est de ne pas avoir d'objet défini. Alors, la réponse est relativement facile. Il est sorti il y a 2-3 ans un bouquin que j'ai fait un petit pamphlet, mais malheureusement je ne l'ai plus là, de Charpak et Brock. qui a eu un succès immense. C'était le plus grand succès de librairie depuis, sur ces sujets depuis toujours, d'ailleurs. 300 000 exemplaires vendus, peut-être même 400 000. Et honnêtement, c'est le plus mauvais livre jamais écrit sur ces questions. Les deux choses étant forcément liées. Et donc, il est même tellement mauvais que j'ai fait un bouquin dessus pour, en commençant, j'ai écrit une lettre à Georges Charpak, le prix Nobel, en lui disant « Je suis obligé de vous le dire, tout prix Nobel que vous soyez, mais votre livre est absolument inepte. » Alors, si je vous fais quelques remarques à ce propos, c'est uniquement pour essayer de redresser l'opinion sur toutes et d'essayer de réfléchir au fait qu'un livre si mauvais a pu avoir un tel succès. Voilà le sujet intéressant. Dans ce livre, donc, Bourbrock et Charpak se débrouillent pour laisser croire au lecteur, qui n'est pas versé dans ces questions, qui n'a pas passé du temps à les étudier, que la parapsychologie, c'est un espèce de bric-à-brac, vous voyez, et qu'il n'y a pas d'objet déterminé. Une espèce de bric-à-brac, on étudie tous les mystères qui se présentent comme ça, sans plan, sans vue d'ensemble. Et ça, c'est le type même de la désinformation méthodique. Charpak n'y connaît rien. Puisqu'en fait, il n'a pas écrit une ligne dans ce bouquin, c'est Brock. Quant à Brock, on sait que c'est lui qui a écrit le bouquin, puisqu'on reconnaît même ses fautes d'orthographe. Mais Brock, lui, est au courant de la parapsychologie plus qu'il ne le laisse paraître, et c'est en cela que ce livre est complètement malhonnête. Tous les exemples qu'il donne, ce ne sont pas des exemples d'expérience en laboratoire ou avec des grands médiums. C'est du genre, après un repas bien arrosé, on essaie de faire un test de télépathie bidon, ou on va au music hall et on voit quelqu'un qui se transperce la gorge avec un couteau. Et lui, il va affirmer, bien entendu, que c'est un trucage, etc. Bref, il laisse croire au lecteur qu'il n'y a pas de chance structurée. Vous voyez ? C'est complètement malhonnête. Puisque lui, il le sait. Il le sait. Vous comprenez ? C'est ça le problème. Et donc, le but de l'opération est d'inscrire dans l'esprit des gens que c'est un domaine de la confusion la plus totale, de manière à tuer le sujet. Tuer le sujet en tant que sujet d'étude scientifique. Le garder comme sujet de polémique pour faire des bouquins, oui, c'est son intérêt. Mais éviter de faire, si vous voulez, il ne faut pas que les lecteurs de son livre sachent qu'il existe une science qui étudie ces questions depuis 150 ans et que la documentation qu'il y a là-dessus, il faut des bibliothèques pour la contenir, vous voyez ? Il ne faut pas que les gens le sachent. Donc il n'y a aucune référence à aucun parapsychologue dans son bouquin, c'est tout du fatras. Bon, alors j'en viens à la façon dont il découpe la chose. Comment ça fonctionne ? Imaginez un premier cercle, le noyau dur. C'est ce qu'étudie la parapsychologie. Dans ce noyau dur, il y a les phénomènes qu'étudient les parapsychologues, qui s'appellent le psy réceptif, c'est-à-dire les phénomènes intellectuels, clairvoyance, sa télépathie et la précognition. Alors distinguons-les. Hein. La clairvoyance, c'est la capacité par l'esprit supposé d'acquérir des informations sur des événements futurs. La clairvoyance, c'est la capacité qu'aurait l'esprit humain d'accéder aux choses directement sans passer par le canal d'un autre esprit. Et puis enfin, donc, la télépathie, c'est le phénomène le mieux objectivé, le mieux prouvé de la parapsychologie, c'est le contact de conscience à conscience. Donc voilà, vous avez ces trois phénomènes, télépathie, clairvoyance et précognition, qui constituent le noyau des phénomènes mentaux. Et l'autre bord des phénomènes, ce sont les phénomènes qui concernent l'action de l'esprit sur la matière. Déplacement d'objets, etc., etc. Et aussi ce qu'on appelle la psychocinèse, c'est-à-dire l'action de l'esprit sur les systèmes vivants. Par exemple, certains médiums sont censés pouvoir guérir une maladie ou modifier un tissu. C'est ça la biopsychocinèse. Hein. Et donc voilà, ça c'est le noyau. Et alors autour, il y a un deuxième, on pourrait dire qu'il y a un deuxième cercle avec des phénomènes qui sont étranges, intéressants mais périphériques. Vous auriez les ovnis. On ne sait pas très bien s'il faut les mettre dans ce... s'ils relèvent du paranormal ou pas. Vous voyez, c'est très compliqué la question des ovnis. Vous avez par exemple les guérisons de Lourdes, vous avez la marche sur le feu, vous voyez. Hein, le sphère de Turin, tous ces phénomènes-là qui sont très étranges et très intéressants, mais qui n'entrent pas exactement dans le champ de la parapsychologie. Et puis alors après, vous avez tout le fatras de l'occultisme. Ce que cherchent à faire les parapsychologues, c'est bien restreindre leur sujet à ce qui relève du noyau dur, Et ce que recherchent les détracteurs de la parapsychologie, c'est de faire croire que le sujet qu'étudie les parapsychologues, c'est ce qu'il y a dans les couches périphériques. C'est-à-dire le travail que les parapsychologues cherchent à faire de purifier, de rendre leur objet cohérent et compréhensible, les autres le défont par désinformation en se débrouillant pour ne mentionner que les choses sans... Enfin, que finalement, nous, on s'en fout, par exemple. Dans son bouquin, Brock démontre que les gens qui se transpercent la gorge, par exemple, ou le corps avec des poignards, c'est tel système de trucage. C'est ce que j'ai répondu dans mon livre. Premièrement, si c'était vrai, on s'en fout, parce que ça relève de l'hypnose, et ça relève pas de la parapsychologie. Vous suivez bien ? L'hypnose et la parapsychologie sont deux choses différentes. L'hypnose, qui est un état de conscience assez mystérieux, relève de la psychologie. Elle est encore à la limite de ce que la psychologie peut admettre. Mais elle est un état qui facilite l'accès à des états qui, eux, sont incompréhensibles. C'est-à-dire que c'est dans l'hypnose les phénomènes de clairvoyance. Voyez ? Donc, ce qui intéresse, supposons un voyant qui, comme Alexis Didier, qui se met dans un état de transe profonde et qui voit à distance. Ce qui intéresse le parapsychologue, ou le métapsychique plutôt, c'est la vision à distance. L'état de transe, il le laisse au psychologue. Il s'y intéresse aussi, mais je veux dire, ça fait partie du cercle extérieur, vous voyez. Tout le travail de la désinformation consiste à faire croire que les parapsychologues n'ont pas constitué et purifié des objets, alors qu'en réalité, ils ont travaillé à ça depuis 150 ans. Lisez, par curiosité, le bouquin de Brock et Charpak et vous verrez ce que je veux dire. Alors, autrefois, bien entendu, les détracteurs de la parapsychologie étaient plus intelligents, plus cultivés, et ils savaient de quoi ils parlaient. Mais si vous voulez, dans notre époque... c'est comme tout partout, quoi, si vous voulez. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon bouquin, la zététique de plage. Il faut que ce soit facile à comprendre pour les gens, surtout que ça ne prenne pas la tête. Autre critique qu'on fait, les expériences ne sont pas reproductibles. Plusieurs mises au point. D'abord, dans les sciences proprement dites, dans les sciences de la nature, tout n'est pas reproductible. Ça, c'est l'apanage de la physique. Mais il y a plein de phénomènes qui ne sont pas reproductibles. Par exemple, si vous voulez reproduire en laboratoire l'évolution biologique, vous ne pourrez pas. Ça se joue à des échelles qui nous le rendent impossible. Deuxièmement, les parapsychologues américains, en étudiant les phénomènes statistiques, font du reproductible, puisqu'ils étudient les phénomènes à bas bruit. Eux, ils s'occupent pas, ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas tributaires de sujets qui ont des talents d'exception, qui marchent certains jours et pas certains autres. Et troisièmement, quand vous avez mis la main sur un voyant du calibre de Sovieki, vous pouvez être assuré que pendant la séance, il va se passer quelque chose. Il peut échouer parfois, il lui arrive toujours d'échouer, mais ces phénomènes sont, disons, semi-reproductibles. Semi-reproductibles, c'est-à-dire que si on est patient, si on est prêt à que ça rate plusieurs fois de suite, on va voir se passer le phénomène. Et donc, si on met en place tous les systèmes de contrôle et de protection, on pourra l'objectiver. L'argument qui consiste à dire que puisque ça ne marche pas parfois, ça ne marche jamais, est stupide, épistémologiquement. Je vous en donne la démonstration en 30 secondes. Supposez qu'on envoie une sonde sur Vénus, sur quel est ce satellite où on pense trouver de la vie. Non, une lune de Jupiter, c'est Aurore, je crois, non ? Europe. Voilà, où il y a de la glace, où on pense qu'il y a de la vie dessous. Bon, supposons qu'on envoie une sonde, ça ne trouve rien. Premièrement, ça ne prouvera pas qu'il n'y en a pas ailleurs sur Europe. Supposons qu'on envoie suffisamment de sondes pour faire le tour de la question et qu'il n'y ait pas de vie sur Europe. Qu'est-ce que ça prouvera ? Rien. Ça prouvera qu'il n'y a pas de vie sur Europe. Inversement, supposons qu'on trouve de la vie sur Europe. Qu'est-ce que ça prouve ? Il en découlera la très très forte probabilité que la vie est partout. Vous voyez, vous comprenez, c'est pas du tout pareil. Les arguments ne sont pas symétriques. C'est une malhonnêteté intellectuelle de nous faire croire que les arguments sont symétriques. Là, l'échec ne prouvera rien et le succès sera déterminant. Et donc, c'est pourquoi les expériences semi-reproductibles sont absolument déterminantes. Il suffit que ça marche de temps en temps, si c'est bien objectivé, pour envelopper le morceau. Bon, alors, il y a une accumulation de faits comme ça qui font dire que oui, c'est possible, ça existe. Oui. Bien. Mais ce n'est pas la même épistémologie que les phénomènes de la nature. Il est clair que si je lâche ce verre, il va tomber et qu'il tombera jusqu'à la fin des temps à conditions égales. Si jamais il reste suspendu, tout le monde va se sauver de la salle. Tandis qu'avec les voyants, ça marche certains jours, ça ne marche pas certains autres. Il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi, c'est comme ça. Simplement, il suffit d'être patient, puis ça va se présenter. Donc, cet argument de la non-reproductibilité n'est pas très sérieux. Autre argument qu'on emploie souvent, la métapsychique a été jugée. C'est-à-dire, il y aurait eu, au début du XXe siècle, je parle des arguments qui circulent dans le milieu intellectuel, hein, des commissions officielles qui auraient tranché d'une façon définitive et démontré la non-existence de ces phénomènes et prouvé que les expérimentateurs étaient des naïfs ou des comparses. Eh bien, moi, je suis désolé, je suis un historien de la chose, je peux vous dire que ces expériences n'ont pas eu lieu. Il y a eu une série de commissions officielles, c'est très compliqué, avec certains des résultats positifs, certains des résultats négatifs, il n'y a jamais eu de test décisif. Mené sur une longueur suffisante, tout ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi ? Parce que quand des hommes de science, parce que si vous voulez, pour que le test puisse avoir une valeur probante, il faut aller chercher des hommes de l'institution pour les amener dans ce domaine maudit. Alors ils arrivent en marchant sur des œufs et avec une hâte, c'est d'en avoir fini le plus vite possible, parce que s'ils s'attardent dans ce domaine, c'en est fini pour leur carrière. Donc ils bâclent les trucs très rapidement et il n'est pas question de mener ça pendant des années, sauf quelques exceptions. Et donc, si vous voulez, en science, on ne va pas juger un truc sur une expérience. Ça se joue sur des dizaines d'années, ce n'est pas sérieux. Donc, à tout le moins, les résultats discordants des tests qui ont été faits invitent à continuer de chercher. Il n'y a pas de, il n'y a rien de scandaleux là-dedans, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de test décisif. Quant au fameux jugement de trucage, alors c'est compliqué. Il y a deux sortes de phénomènes. Les phénomènes tels que ceux de la voyance que je vous ai racontés sont pratiquement impossibles à truquer. C'est très facile de se prémunir. En revanche, les phénomènes avec des télékinésies, des ectoplasmes, c'est-à-dire des espèces de fantômes qui sortent du corps des gens, se passaient souvent dans des conditions d'obscurité qui rendaient le contrôle difficile. Néanmoins, les expérimentateurs ont mis en place des systèmes absolument incroyables. Il est absolument inconcevable, dans certains cas, que les gens aient pu truquer. Certains tests qui ont été faits, notamment avec la fameuse médium italienne Eusapia Palladino, par un groupe de savants, ce qu'on appelait l'Institut Général Psychologique, entre 1905 et 1908, donc ça a duré plusieurs années, c'est ce qui a été fait de plus sérieux au début du XXe siècle. C'était une commission dirigée par le philosophe Bergson, plus grand philosophe de l'époque. Il y avait aussi Pierre et Marie Curie dans la commission. Il y avait un des inventeurs de la radio, d'Arsonval. L'élite de la science française était là. Et cette médium italienne, Eusapia Palladino, avait une réputation un peu sulfureuse. C'est-à-dire qu'on savait que parfois elle produisait des phénomènes incompréhensibles, mais si on lui laissait la moindre latitude, elle trichait. C'était comme une sorte de pulsion chez elle. Il fallait qu'elle réussisse de toute façon par un moyen ou par un autre. Alors ils ont mis en place des systèmes drastiques. Et dans certains cas, elle a réussi par exemple à faire léviter un guéridon de 18 kilos qui est resté suspendu une trentaine de secondes. C'était impossible. Et donc, elle avait les pieds attachés, enfin je passe tous les détails, et le rapport de la commission dit à la fin, il est clair que Eusapia a parfois cherché à truquer, mais dans certaines expériences, alors tel jour, etc., c'était absolument impossible. Voilà. Donc, même dans le cas des phénomènes physiques, le bilan est mitigé. On ne peut pas dire d'une façon que ça a été tranché, d'une façon claire. Non, ça n'a pas été tranché. C'est une légende qui circule, qui évite, si vous voulez, d'avoir à se pencher sur cette question. Hein. On vous dira régulièrement, mais vous savez bien que ces questions-là sont dépassées. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas eu lieu. Les expériences en question n'ont pas eu lieu. Ou pas avec le sérieux qu'il aurait fallu. Un autre reproche qu'on fait aux parapsychologues, c'est de surjouer la science expérimentale. Les savants qui ont attaqué les parapsychologues jusqu'alors leur ont plutôt reproché de ce qu'ils croyaient des protocoles laxistes, c'est-à-dire des contrôles insuffisants qui permettaient aux médiums de tricher, etc., etc. Bien. Donc voilà, c'est ce qui circule comme opinion. Les parapsychologues ont des contrôles laxistes. C'était tout simplement dû au fait que les savants qui émettaient cette opinion n'avaient jamais vraiment lu les rapports. Or, depuis une quinzaine d'années, il est devenu assez à la mode chez les anthropologues d'étudier historiquement ces dossiers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, en découvrant, en étudiant ces dossiers? Ils ont découvert avec une certaine gêne que non seulement les protocoles n'étaient pas laxistes, mais qu'ils étaient qu'ils surchargeaient de précautions inimaginables. C'était une espèce de carcan, vous voyez, qui pesait sur les médiums dans certains cas. Et du coup, l'argument s'est retourné. Et ce qu'on leur reproche, c'est plutôt de surjouer la science dure, d'être d'être dans un esprit scientiste, vous voyez, croire trop aux faits et à l'expérience, etc. C'est-à-dire exactement le contraire de l'argument précédent. Moralité, vous connaissez le proverbe, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Hein. Si ça ne marche pas d'un côté, on essaie. Alors donc on reproche à la fois aux parapsychologues d'avoir des protocoles laxistes et d'avoir des protocoles extrêmement trop lourds et trop pesants. Il faut savoir. Donc, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'il y a une volonté de ne pas admettre, si vous voulez, ce type de démarche. Alors ça, ce type de critique, on trouvera ça aujourd'hui dans les revues de sciences humaines assez sophistiquées. Oui. Complètement le contraire de ce qu'on disait il y a 20-30 ans. Ce que j'appelle l'argument de Madame Verdurin. Oui, alors ça. Donc, en gros, c'est peut-être pratiquement au plan culturel le plus important. Il y a une conviction chez les intellectuels français, que le fait de s'intéresser à ces choses-là, c'est une mauvaise pente qui nous amène vers une sorte de dérive fascisante. Cette idée-là a été imprimée dans l'esprit des gens par les marxistes qui, donc, ont fait à la fin de la guerre, vous voyez, essentiellement. Pourquoi il y aurait une dérive fascisante? Parce que la parapsychologie cultiverait l'idée de sujets d'exception, dotés de pouvoirs extraordinaires, etc., etc. Vous voyez. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'ai étudié ce dossier. Hein. D'abord, il en est que, comme partout, il y a des gens de tous les bords là-dedans. Il y a des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre. Par exemple, le magnétisme animal, au 19e siècle, a été très nettement à gauche. Parce que on utilisait ces phénomènes comme un moyen de lutte contre la religion. C'est une naturalisation, une rationalisation de la religion. Un des grands partisans de la parapsychologie, vous avez été étonné de qui je vais vous citer, c'est Jaurès. Jean Jaurès, dans sa thèse de psychologie, fait un long chapitre sur les phénomènes paranormaux, notamment sur la voyance, en disant que ça va probablement amener à une mutation de l'être humain, etc. Jaurès. On ne peut pas trouver mieux. Alors, il est vrai aussi qu'il y a des gens de droite. Il y a eu tout. Donc, l'argument, le lien automatique qu'il y aurait entre l'intérêt pour ces questions et une vision, disons, très fasciste du monde, n'est pas historiquement prouvé. Mais allons plus loin. Supposons que... Je vous pose une devinette, ça t'intéressant, ce problème. Supposons qu'un groupe de chercheurs du CNRS décide d'étudier en secret ces phénomènes, puisque décidément on ne peut pas le faire en public, et qu'ils découvrent qu'ils sont réels. Mais supposons par ailleurs qu'il y ait bien un lien historique constant entre ces phénomènes, l'intérêt pour ces phénomènes et les fascistes. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Voilà un cas de figure intéressant. Est-ce que c'est la vérité qui prime ou pas? Dans la conception scientifique du monde depuis Galilée, c'est la vérité qui prime. Si c'est comme ça, c'est comme ça, et tant pis. Mais notre société, elle aurait tendance à dire qu'il faut privilégier la considération politique à la vérité. Mais en réalité, bon, ça c'est moi j'avais imaginé ce cas de figure pour pousser le raisonnement, mais en réalité, historiquement, il n'y a rien de tel. C'est un fantasme. Donc en France, ça n'est plus représenté dans l'institution. Comme je vous le disais, ces objets n'existent pas officiellement. Ils ne figurent pas dans la liste des objets scientifiques du CNRS. Vous ne pouvez pas étudier scientifiquement. Là. Donc pour finir avec cette question de l'institution, maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que c'est franco-français. C'est-à-dire que, en réalité, c'est interdit, est vrai pour la France, une partie des pays européens, mais pas tous, et dans les pays anglo-saxons, il y a des chaires de parapsychologie. Alors, j'en fais un peu la liste. Vous avez, par exemple, la chaire de parapsychologie de Freiburg, en Allemagne. un institut qui s'appelle l'Institut pour les zones limites de la psyché, qui fait à la fois des recherches parapsychologiques et qui, et en même temps, propose une assistance pour les gens qui ont des phénomènes paranormaux qui les rendent fous. Si vous voulez, le problème, c'est que, imaginez quelqu'un qui a un poltergeist chez lui, c'est-à-dire les objets qui se mettent à bouger, etc. Pour un occidental normal, c'est pas possible, il devient cinglé, et il a personne à qui se confier, puisqu'officiellement ça n'existe pas. S'il va voir son médecin habituel, il va lui rire au nez, il risque de le boucler à l'institut psychiatrique. Donc, il faut des gens qui soient suffisamment informés pour vous prendre au sérieux, ou moins vous écouter, sans vous boucler. Donc à l'Institut Métapsychique, on a commencé ça. On a deux de nos psychologues qui font maintenant des consultations. Eh bien, si je vous disais qu'on a à peu près 50 demandes par mois, sans faire aucune publicité. En Allemagne, l'Institut des zones limites de la psyché a plusieurs milliers de demandes par an. Ça veut dire tout simplement une chose, c'est que ces phénomènes n'existent plus officiellement, puisqu'ils sont plus, ils n'ont pas d'existence, comme je vous le disais. Mais en réalité, ils continuent d'exister et de perturber les gens. Vous voyez ? Si on acceptait leur existence, on s'apercevrait qu'ils sont très fréquents. C'est simplement parce qu'ils sont réprimés et que les gens n'y sont plus attentifs ou qu'ils les interprètent autrement. C'est quelque chose qui est mis en sommeil parce que notre culture ne le favorise pas. Et donc, bon, alors vous avez donc l'institut en Allemagne, vous avez deux instituts en Hollande, vous avez l'université d'Édimbourg, où il y a une chaire de parapsychologie qui a été fondée grâce à l'écrivain Arthur Koestler, qui a légué toute sa fortune avant de mourir à l'institut. Vous avez en Angleterre plusieurs universités qui travaillent là-dessus, et aux États-Unis également plusieurs. Il y en a aussi au Japon, bref. Alors, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'on ne le sache pas ? On a beaucoup reproché aux parapsychologues, dans les premiers temps, d'avoir fait... Une des choses qu'on leur a reproché, c'est qu'ils ont fait trop de publicité avec leur découverte. Il y avait un effet d'annonce, etc. Et ça s'est toujours retourné contre eux. Et en réalité, donc les parapsychologues aujourd'hui, américains, anglais, etc., ont le parti pris de discrétion. Mais il y a des congrès, moi je suis allé à des congrès en Angleterre, en France, etc., des échanges, des congrès savants avec 100 personnes, des congrès scientifiques normaux avec des statistiques, des discussions, tout. Bon, ça existe, sauf en France. Alors, le paradoxe extraordinaire de l'histoire, c'est que c'est né en France. C'est né en France, ça a émigré à l'étranger et ça ne peut plus revenir en France à l'heure actuelle. Donc il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas d'existence institutionnelle de ces phénomènes. En réalité, ces phénomènes sont porteurs d'un immense intérêt épistémologique, philosophique. C'est une des clés de l'univers. C'est donc pour ça qu'on est réticent à les étudier. En les étudiant, on touche quelque chose de profond. Je vais vous donner un exemple. À l'heure actuelle, ce qui domine notre société, c'est les neurosciences au plan scientifique. En réalité, ces phénomènes sont porteurs d'un immense intérêt épistémologique, philosophique. C'est une des clés de l'univers. C'est donc pour ça qu'on est réticent à les étudier. En les étudiant, on touche quelque chose de profond. Je vais vous donner un exemple. À l'heure actuelle, ce qui domine notre société, c'est les neurosciences au plan scientifique. C'est un énorme programme de recherche qui vise à démontrer que le cerveau produit la conscience, qu'elle n'existe pas indépendamment du cerveau, que la conscience est un épiphénomène. Bon, c'est une idée qui naît au 19e. Qu'est-ce que ça suppose, par exemple ? Prenez le mécanisme de la mémoire. Ça suppose qu'on ne peut se souvenir de quelque chose que si le quelque chose en question a laissé des traces dans notre mémoire, par un des canaux sensoriels. Les débats sur ces questions sont immensément compliqués, mais on peut les ramener à un point extrêmement simple et crucial. Tout acte de pensée, de mémoire en tout cas, passe par la perception de quelque chose, un des cinq sens, et se dépose dans le cerveau où c'est stocké. Voilà, je simplifie comment la chose est conçue. Il est inconcevable qu'on se souvienne d'un événement avec lequel on n'a pas été en contact. Ou qu'on se souvienne de la mémoire de quelqu'un d'autre, comme font les voyants. Donc ça veut dire que si ces phénomènes existent, la neurologie moderne, tout le grand programme des neurosciences, se heurte à un iceberg à cet endroit-là. Et donc, évidemment, on comprend qu'il y a une violente réaction contre ça, parce que c'est le plus grand programme de la science contemporaine. Vous voyez, c'est le grain de sable dans la machine, quoi, le truc qui empêche la machine de fonctionner. Voilà. Donc, ça ne sont pas des phénomènes anodins. Parce que moi, je fais mon pari que lorsqu'on aura usé toutes les reproches, on dira « ouais, d'accord, on les étudie, mais ce sont des bizarreries ». Non, ce ne sont pas des bizarreries, ce sont des phénomènes qui touchent le cœur de l'univers, la clé d'un rapport, par exemple, du physique et du mental, du corps et de l'esprit, etc., etc. Donc, ils sont d'un immense intérêt. Et en plus, leur gros avantage, c'est que pour les étudier, il n'y a pas besoin de beaucoup de crédit. Vous voyez ? C'est le meilleur rapport qu'on puisse imaginer entre l'investissement matériel et le résultat théorique. Voilà. J'ai terminé là-dessus.
Danse, danse, ma jolie danse. Danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Venir des grosses têtes, des gugus et puis des athlètes. On aime bien dans nos bistrots les gens qui ne se ressemblent pas trop. Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos six boulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut. Danse ma jolie danse, danse, danse mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout. Dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.